se poursuit après cette pause. FM 93.
Vous voulez vendre ou acheter une propriété? Contactez Michel Ferland, courtier immobilier résidentiel Remax Avantage. Il vous accompagnera dans votre projet en respectant à la lettre toutes les mesures de sécurité. Vous voulez une rencontre pour mettre en marché votre propriété? Contactez-le sans tarder. Vous souhaitez visiter une propriété? C'est possible aussi. Michel Ferland respectera votre choix, vous accompagnera et vous conseillera. Pour vendre ou acheter en toute sécurité, michelferland.ca. 418-832-1001, michelferland.ca.
Le midi, rien n'égale le menu du travailleur de Thomas Tam. Trois choix du chef, en plus des irrésistibles Egg Rolls. Seulement 11,95 jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30. Thomas Tam, boulevard Amel et sur Marais.
Thomas Tam.com.
Chez Lévis Ford. Obtenir 0% de financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur les F-159 sélectionnés. Plus un report de 3 paiements. Et en plus, Lévis Ford paye 3 paiements pour vous. Lévis Ford, encore plus fort. 61 Route Kennedy, Lévis.
Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
La climatisation, on connaît ça.
Puis cet été, ça se peut qu'on passe un peu plus de temps à la maison.
Donc, on est là pour vous et votre confort.
Vous avez besoin d'un climatiseur? On en installe.
Puis on fait ça dans les règles de l'art pour notre sécurité à tous.
En climatisation,
c'est nous les experts.
Réparation, entretien ou installation,
faites une demande en ligne sur boucherlortie.com
ou appelez-nous au 418-623-2323.
Boucher, Lortie, on est de service.
Alimentation L'Impact, votre épicerie de quartier au cœur de Limoilou. Un choix impressionnant de viande, de fruits et légumes, toujours frais. C'est aussi le plus grand magasin de microbrasserie au Québec, avec 600 variétés de bières et toujours des promotions. Alimentation L'Impact, 1604e avenue.
Y'en a qui regardent la TV, moi je mange. Y'en a qui vont marcher, moi je mange. Y'en a qui jouent aux cartes, moi je mange. Y'en a qui font des dessins, moi je mange. Quand je reste chez nous, moi je mange.
Le confinement, ça donne faim. Mais pour plusieurs, il n'y a plus rien à manger. La Guignolée des médias revient exceptionnellement pour aider les comptoirs d'aide alimentaire qui seront plus sollicités que jamais aujourd'hui et dans les mois à venir. Si vous le pouvez, faites un don en argent à guignolée.ca.
Steph Dupont, notre porte-parole, vous le confirme. La meilleure, c'est l'équipe McKinnon. Et elle est à la recherche de signaleurs routiers. Vous êtes à la recherche d'un travail à l'extérieur? Avec un salaire à partir de $18.54, c'est l'emploi estival de rêve. Vous êtes jeune retraité? Tanné d'être confiné? Cet emploi est pour vous. La formation est payée par l'employeur. Faites partie de l'équipe McKinnon. SignalisationMcKinnon.com. Signalisation McKinnon. MCKINNON.com.
Québec et Sainte-Foy Mitsubishi vous offre le VUS branchable le plus vendu au monde, le PHEV à 0% d'intérêt sur 84 mois, $217 aux deux semaines plus taxes. Qui seront les chanceux? Il en reste juste 8. Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
Depuis plus de 40 ans, Ameublement JGR de Laurier Station prend soin de votre confort. Notre entreprise familiale se fait un point d'honneur de vous offrir des meubles de qualité fabriqués au Québec. L'achat local fait partie de nos valeurs d'entreprise. Nous respectons les consignes de la sécurité publique, alors venez nous voir sans crainte. Laissez-nous vous surprendre avec notre service chaleureux et notre vaste gamme de produits qui répondent à votre budget. Chez Ameublement JGR, nous croyons que chaque client doit être considéré comme un ami. Ameublement JGR à Laurier Station à 20 minutes des ponts. On a hâte de vous voir.
Le FM 93 et le 47 félicitent notre ange de la semaine, Annick Thibodeau. Paramédic depuis 15 ans, elle est au front depuis le début de la pandémie. Elle travaille avec le sourire malgré la situation actuelle. C'est aussi une super maman. Vous côtoyez un ange? Parlez-nous de lui au fm93.com ou textez ANGE au 25226. Il pourrait remporter $250 du restaurant Le 47 pour déguster l'un de leurs réputés coffres gourmands. L'ange de la semaine, une initiative du FM 93. Une présentation du 47.
Il y a moyen de payer votre épicerie 30 % moins cher. Suffit d'aller chez le grossiste Le Frigo. Viande, poisson, fruits de mer, fromage, fruits et légumes, des produits de qualité et ils encouragent les producteurs du Québec. Vous trouverez de tout pour vos repas barbecue et vos soupers homards. Commandez en ligne les fameux kits d'épicerie du Frigo, différentes formules pour 4, à prix exceptionnel et profitez du service à l'auto sans contact. Détails sur la page Facebook du grossiste Le Frigo, derrière le centre Vidéotron, grossiste Le Frigo, ouvert le dimanche.
Génacol est une entreprise québécoise qui offre depuis 20 ans des produits naturels éprouvés pour la santé articulaire. Découvrez la formule complète de Génacol Optimum qui contient 4 ingrédients actifs. Cette solution 4 en 1 régénère, lubrifie, soulage et protège les articulations. Génacol Optimum est offert en liquide et maintenant offert en comprimé. En rabais à seulement $24,99 chez Family Prix jusqu'au 3 juin. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Céramique L'Entrepôt vous offre tout le mois de mai les soldes printaniers. Économisez 20, 30, 40 % et même plus sur les plus belles céramiques sur le marché. Économisez sur les vinyles Click à partir de $1,99 le pied carré. Avec la plus belle salle de montre à Québec, le plus grand choix, notre fameux prix palette et en plus notre politique du meilleur prix garanti, venez nous voir et venez comparer. Céramique L'Entrepôt, 850 boulevard Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Météo.
Donc, on parle d'une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec un maximum de 33 degrés. L'humidex atteindra 38. Demain, on aura quelques averses en avant-midi et ce sera nuageux par la suite. Il y a toutefois un risque d'orage en après-midi. Le maximum sera de 31 et samedi, ce sera de la pluie avec un maximum de 19, donc pas mal plus frais. Actuellement, à Québec, on a 30 degrés, mais on ressent 36.
Présentement, c'est Duhaime le midi.
Avec Éric Duhaime.
Juste après, c'est Bouchard en parle.
On est de retour maintenant pour parler de la conférence de presse du premier ministre qui va avoir lieu dans quelques minutes. Il sera accompagné aujourd'hui exceptionnellement de sa ministre de la Justice, Sonia Lebel. Le bilan du jour, parce qu'ils ne le donneront pas pendant la conférence de presse, parce que vous savez qu'ils nous les donnent plus tôt maintenant, c'est plus le premier ministre ou ses adjoints qui nous l'annonce, c'est vraiment un communiqué de presse qui est émis vers à peu près 11h le matin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 74 nouveaux décès qui se sont ajoutés. On est rendu à 4302 au Québec depuis le début de la pandémie. Des nombres de cas, donc des gens qui ont attrapé la COVID-19, il y en a 49 702. Probablement que l'écrasante majorité de ça est guérie, mais on n'a pas le chiffre. On a toujours un chiffre, mais il est très conservateur. Mais il y a quand même 563 nouveaux cas qui se sont ajoutés au cours des dernières 24 heures. 1331 personnes sont présentement hospitalisées. C'est une baisse importante, 47 de moins. Et pour les soins intensifs, on est à 178. C'est deux cas de moins. Donc, lentement, mais sûrement, ça descend. Ça descend très lentement. On aurait souhaité que ça aille plus vite. Ailleurs, ça va plus vite. Le Québec a toujours le pire bilan et de loin au Canada. Montréal demeure une des 5 villes les plus affectées sur la planète. Et le bilan continue de s'alourdir un petit peu à tous les jours. Mais on voit quand même que il y a une progression et qu'à tous les jours, donc, la courbe redescend. On suit cette courbe-là depuis le jour 1. Et on voit ça. Puis dans la région, attends, j'ai-tu les chiffres de la région? La région de Québec, grosso modo, il n'y a pas de nouveaux décès, si j'ai bien compris, là, ni du côté de la Rive-Sud, ni du côté de la capitale nationale. Donc, on va les rejoindre. Ils sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, qui vient d'entrer dans la tribune de la presse parlementaire, accompagné évidemment du premier ministre du Québec, François Legault, et de la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Donc, on va les rejoindre à l'instant.
Arruda. Alors, monsieur le premier ministre, à vous la parole.
Merci, tout le monde. Mais d'abord, vous dire que le masque que j'ai aujourd'hui, là, qu'il ne faut pas le toucher, c'était fabriqué par... vous voulez prendre une photo? C'était fabriqué par Christine Larouche de chez Tricotine Christine à Sainte-Monique, au Lac-Saint-Jean. Donc, j'en profite, évidemment, encore une fois pour... demandez à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis, si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du docteur Arruda, j'ai de la belle visite, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui va venir, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi. Il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation des façons de faire, entre autres d'un palais de justice. Donc, beaucoup plus de salles, de cours qui sont virtuelles. Donc, elle va aussi vous parler de ça parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan ce matin. Vous voyez quand même, il y a des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations. Depuis une semaine, il y a une baisse de 173 personnes qui sont hospitalisées pour la COVID-19. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès. 74 décès. C'est important quand même de regarder encore une fois qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70, c'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc ça soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires, donc 4 qui vivaient dans des maisons, donc 4 qui sont dans la communauté. Donc, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir bientôt des rapports là, qui vont être déposés par l'Institut, qui vont vous montrer que ça va bien quand même, même à Montréal, là, la transmission dans la communauté est moins grande, et donc la situation va bien à l'extérieur des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir, bien sûr, sur les résidences. Malheureusement, c'est encore difficile dans les résidences. Puis je vais faire un petit peu le point. Vous savez, on a trois types de résidences, les CHSLD, les RPA pour les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources intermédiaires aussi avec la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 résidences. Hier, on en avait 340 qui était avec au moins un cas infecté, 2725 personnes qui sont encore infectées. On est monté, maintenant jusqu'à 5000, donc on est à 2700. Puis si je regarde juste les CHSLD, parce que c'est là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la COVID-19, sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectées. Si on regarde les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux qui ont plus que 15% de cas, il y en a 41 CHSLD. Donc, c'est ces 41-là qu'on suit particulièrement de proche. Donc, évidemment, je veux revenir, puis je vais revenir au cours des prochains jours sur la proposition qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans 2-3 semaines. Et je veux dire, vous allez voir, là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir un site web ou des sites web pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes régions du Québec. Mais je veux revenir d'abord sur le salaire, qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein, donc avec tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres, un salaire de 49 000 $ par année suite à une formation qui s'étalerait donc de la mi-juin à la mi-septembre, 3 mois, pendant lesquels les personnes recevraient un salaire de 760 $ par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté monétaire. Mais aujourd'hui, je vais essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens qu'il n'y a pas juste l'aspect monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec les patients. Mais Ce qu'on vise, ce que je vise, puis je pourrais mettre les Québécois de tout faire ce que je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec les résidents, les résidentes. Par hasard, et puis je veux y revenir, je sais que j'en ai parlé sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard, j'ai lu, il y a quelques semaines, le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Laberge, quand je dis c'est un hasard, c'est pas un hasard que je la lise, là, j'ai tout lu ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSLD. Donc, l'histoire se passe entre une préposée aux bénéficiaires et une résidente en particulier. Il y en a d'autres, là, mais se développe une belle complicité. Puis, c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSLD. Donc, de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit dans l'histoire de Marie Laberge. Il y a une belle complicité, une confiance, des échanges. Même il y a des conseils. La personne qui est plus âgée, la résidente, donne des conseils. La préposée prend ça en note. Puis bon, après son décès, va relire tous les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on veut, qu'on voudrait voir. Là. Prendre, avoir le temps de mettre une débarbouillette fraîche sur le front, masser les jambes, puis surtout parler. Prendre le temps avec une résidente, un résident en chaise roulante, de l'amener à l'extérieur, aller prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire, pardon, ceux ou celles qui hésitent à s'inscrire dans les 10 000 places qui vont être offertes, là, je vous invite à lire le livre de Marie Laberge. Puis j'espère que ça va vous convaincre que ça peut être très valorisant, ce travail-là. Et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, ben engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. J'ai beaucoup entendu là depuis hier des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une partie des 10 000 personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut comprendre deux choses. Bon, d'abord, nous, on veut des personnes qui sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de danger, là, les gens qui était déjà préposé aux bénéficiaires puis qui aurait eu intérêt à transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, il n'y aura pas de nouveaux cas de ce côté-là. Puis, pour ce qui est des personnes non formées, bien là, on va en former 10 000. Et ce que je veux dire aussi aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là. Vous savez, on a mis des incitatifs, là, le 4 $ de l'heure. On est en train de regarder d'abord pour de l'aide financière. Parce qu'on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 $ de l'heure. Bien, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, il va falloir que le gouvernement donne un coup de main, puis on est ouvert à donner un coup de main. Il y a une autre chose aussi qui est importante de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins puis les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient là, qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir des soins et des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des incitatifs, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je conclue en disant, bon, oui, il y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD, donc dans la communauté, la situation va bien. Sonia, tantôt, ou Madame la ministre de la Justice, il y en a qui n'aiment pas ça quand je tutoie les hommes, les femmes. Hein, donc Madame la ministre va nous parler de déconfinement des palais de justice. Là, bon, hier on a eu les campings. On regarde, c'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants? Qu'est-ce qu'on va faire ce qui n'est pas ouvert? Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Il ne faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour revenir. Donc, c'est important de garder le 2 mètres, le 6 pieds avec les autres personnes, se laver les mains avec du savon régulièrement, puis porter un masque, comme on le fait quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque, donc, dans ces situations-là. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon. The situation remains fragile in senior homes. We need a lot more trained workers. That's why we'll launch a campaign to recruit 10,000 workers that will be trained as orderlies. Thank you, Phil. Orderlies. There are many advantages. A salary during the training of $760. A yearly salary of $49,000 when you become orderly. And a full-time job with pension funds, all fringe benefits. And that's the most important part, a rewarding job. If you want to make a difference in people's life, we need you. Today, our Minister of Justice will announce the reopening of courthouses. But if we want to continue the reopening to be a success, we must continue to follow the public health instruction. We must all remain disciplined and responsible. So I'm counting on you all. Thank you. Et je passe la parole à la ministre de la Justice, Sonia Lebel.
Et merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, effectivement, pour moi, c'est très, très heureux de vous annoncer une annonce importante pour le système de justice qui a dû prendre un coup de ralentissement assez sérieux depuis le début de cette crise sanitaire. Donc, on a travaillé très fort dans les dernières semaines avec la santé publique pour pouvoir réouvrir à partir du 1er juin graduellement les activités judiciaires. Donc, pendant les dernières semaines, avec la collaboration de tous les partenaires, je pense que c'est important ici que je prenne une seconde, une minute pour signifier à quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement compte tenu du fait qu'on a dû physiquement fermer plusieurs palais de justice. Les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire, qu'on a été capable également d'accélérer ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, ne serait-ce que des inventaires qui sont des dossiers en attente d'être traités présentement, qui sont dans les greffes des palais de justice. Donc, j'ai décidé également de relancer la table de Justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice, qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque dans la foulée de l'arrêt Jordan, à trouver des solutions pour répondre aux défis des délais judiciaires. Donc, cette table commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider justement à traverser là, les délais ou les défis que cette crise sanitaire nous aura occasionnés. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice, mais ça a également créé d'heureuses opportunités. D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur 5 ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée sur certains aspects par la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créé la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux. Il y aura également, il y a 136 salles virtuelles, d'audiences virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Il y a eu une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois, donc on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le système de justice. La justice au Québec ne redeviendra plus ce qu'elle était. Ce virage technologique n'est pas terminé, mais il est sérieusement entamé par la nécessité que cette crise a créée. J'en suis, je vous le dis, très fière. Les acteurs se sont mobilisés et on a réussi de façon très rapide à atteindre ces objectifs-là. Donc, les palais de justice, pour assurer les gens, ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés. On a eu des consignes de l'INSPQ, donc un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice et naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles, mais du désinfectant est disponible pour les gens. Donc, des mesures de distanciation, de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité. Les gens qui travaillent dans les palais de justice, on a leur santé, leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Chaque tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émis pour les tribunaux. Reprendront leurs activités également graduellement à partir du 1er juin et ce sera chacun des tribunaux administratifs qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber naturellement en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui pour moi est essentielle pour le système de justice et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont contribué là, au maintien des activités qui vont faire en sorte que cette reprise-là sera un succès. Merci.
Très bien. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Fanny Lévesque, La Presse.
Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé que vous êtes ouvert à offrir une aide aux résidences privées qui craignent de voir un exode justement de leurs travailleurs vers le secteur public. Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité d'aller avec un décret pour adopter un salaire plancher. De façon plus précise, là, de quelle aide on parle vraiment au gouvernement? Et qu'est-ce qui est le plus probable là, d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou une aide supplémentaire ou d'aller avec un décret?
Bien, on est en train de regarder différents scénarios. D'abord, je vous dirais, j'aimerais bien savoir sur les 10 000 étudiants, combien vont venir des résidences privées. Aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne n'avait pas de formation dans une résidence privée, là, vient obtenir une formation, bon, on sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 3 mois. Là. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées. Bon, vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité de convertir certaines résidences privées en résidences publiques, là, surtout du côté des CHSLD. Je pense que le ménage un petit peu qu'on a à faire, c'est de voir une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes qui sont entrées dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce que on offre les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force, entre guillemets, ces personnes-là à aller dans les CHSLD? Je pense que c'est tout ça là, qu'il faut regarder, mais de façon générale, il va falloir accepter le fait que, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là, pendant cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre l'équipement de protection individuelle, qui sont capables aussi de bien comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse là, dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, bien, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse.
Parfait. Au sujet de l'armée canadienne, hier, Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était pratiquement impossible de prolonger une intervention de l'armée canadienne au même rythme, là, de façon aussi intensive qu'actuellement, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée se démobilise à la mi-juin?
Bon. D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, donc ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs, avec Justin Trudeau ce soir. Je sais que l'Ontario aussi veut garder les militaires dans leur centre de soins de longue durée plus longtemps. Bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. On est monté jusqu'à 12 000, on avait 10 000. Là, on est rendu à 9 279. Juste hier, il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là. On va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait. Donc, ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer, si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD.
On poursuit avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Vous allez les prendre où, ces 10 000-là? Là, parce que je comprends là, que vous dites qu'il y a d'autres secteurs où il y a eu des pertes d'emplois. Je comprends tout ça. On a vu aujourd'hui que l'immigration, c'est pas la panacée, là, parce que le programme, il permet 550 personnes maximum. Donc, on est loin du compte. Vous allez les prendre où, ces gens-là, M. Legault, pour qu'ils viennent travailler dans le réseau dans un si court laps de temps?
Bon, ben vous voyez, là, il y a un taux de chômage là, d'au moins 7-8%. Donc, il y a beaucoup plus que 10 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Les conditions ou les qualifications qu'on demande, bon, idéalement, c'est d'avoir un secondaire 5. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui répondent à cette exigence. Je pense que c'est un travail qui est relativement bien payé. Quelqu'un qui gagnait moins que 26 de l'heure, qui se fait offrir une job à temps plein du gouvernement, dans le fond, à 26 de l'heure, je pense, c'est attrayant. Maintenant, le principal défi qu'on a, c'est ce qu'on va essayer de regarder avec la publicité là, qu'on va commencer la semaine prochaine, c'est de convaincre les gens qu'en ajoutant 10 000 personnes, la qualité, les conditions de travail vont être meilleures dans les CHSLD. Donc, il va y avoir un peu plus de temps pour les préposés qui veulent accompagner une résidente à traverser la nuit parce qu'elle a de l'anxiété. Donc, de mieux s'occuper de chaque personne. Donc, moi, je pense que ça peut être très valorisant. Moi, j'ai confiance qu'on va en trouver dans la population.
OK. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Parce que il y en a là qui, quand on suit la formation normale, c'est 870 heures, je pense. pour avoir la certification. Là, vous allez les créer, vous allez leur donner cette certification-là, mais en formule accélérée, 300 heures. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Certains qui vont avoir une formation de 870 heures, les autres 300 heures, pour avoir le même salaire en bout de ligne.
Oui. Bien, écoutez, nous, on pense qu'à l'intérieur de 3 mois, on est capable de donner une formation de base, une formation aussi qui est... Vous savez, les préposés aux bénéficiaires, il y en a qui font beaucoup de choses dans les hôpitaux. Là, on veut vraiment des préposés aux bénéficiaires qui vont travailler dans les CHSLD. Donc, on pourra se concentrer sur la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Puis, bon, si vous comptez le nombre d'heures quand même qu'on peut avoir dans 3 mois, puis éventuellement aussi poursuivre l'entraînement pendant le travail, moi, je pense qu'on est capable, en 3 mois, de former des gens qui vont être compétents pour agir comme préposés aux bénéficiaires.
Pardon? Qui vont avoir la même qualité que ceux qui vont avoir fait 870 heures.
Ils vont être capables de bien faire le travail qu'ils ont à faire dans les CHSLD.
C'était le point de presse du premier ministre François Legault et de sa ministre de la Justice, Sonia Lebel. Donc aujourd'hui, réouverture des palais de justice et l'appel aussi du premier ministre là, pour trouver 10 000 préposés aux bénéficiaires, payer 50 000 $ par année. Justement, on prend une pause parce qu'au retour, on va parler avec le président de l'Association des résidences privées pour personnes âgées pour savoir si le problème va être aussi grand qu'on l'anticipe du côté privé avec cette annonce-là.